Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 9, défaillance du monde, l'écrasement du Moyen-Âge. Supposons qu'un matin, nos papes, l'Observatoire, l'Académie des sciences, nous apprennent qu'à tel mois, tel jour, la Terre va traverser une comète d'aérolithes ignées, une pluie de fer et de feu. Grande stupeur. On veut douter d'abord, mais la chose est certaine, calculée et prouvée. Toute activité cesse, tout plaisir, tout travail. On se croise les bras. Cela tarde, pourtant, on s'est trompé d'année. N'importe, nul travail ne reprend. La langueur est la même. Tout le monde s'était arrangé pour cela. La mort, rien de plus doux pour qui n'a plus d'activité. Au premier temps chrétien, cette attente simplifie à tout. Un silence, une paix étrange se fit des passions humaines. Plus de procès, le tien, le mien devinrent indifférents. On ne disputait guère sur ceux qui périraient demain. Tout commun entre frères et sœurs, le sexe est oublié. L'épouse même n'est qu'une sœur. Le foyer est froid et éteint. La mort est espérée. Oh, puisse-t-elle venir tout à l'heure ? Ignace écrit « J'en ai faim, j'en ai soif. » Nature, c'est la malédiction. Nature, c'est la damnation. Au second mot de la Genèse, le Créateur se repentit. Sortir bientôt de la nature, s'en aller au plus vite, comme dit Tertullien, c'est le véritable but de l'homme. Saint Cyprien fait des vœux pour la peste et pour la famine. Celui qui a des enfants doit prier Dieu, Tertullien, pour qu'il sorte de ce siècle impie. C'est ce que fit saint Hilaire pour sa fille, et il l'obtint. Puis il pria pour sa femme, et il eut encore cette grâce. Mais la vie, ses devoirs, ses activités nécessaires, au moins pour qu'elle dure un jour, comment les continuer ? Comment obtenir quelques actes indispensables de ce grand peuple inerte? Et si l'on n'y parvient, pourtant le monde infailliblement cesse. Du moins, si l'on pouvait trouver à ces malades une passion, un vice même, ils seraient sauvés. Mais que faire? Que tirer de la perfection désolante de ces blêmes amants de la mort qui, frappé, sourit, remercie. Nous voyons aujourd'hui dans l'Inde les plus faibles des hommes combat impunément. Nous voyons des femmes timides, de vieilles femmes qui n'ont que le souffle, se jeter sous les roues du char de Jagannath qui sur eux passe lentement. Cette horrible torture n'en tire pas un soupir. Pour la moindre action, ils en sont incapables. Rien de plus ordinaire, surtout à la naissance des grandes épidémies religieuses, que cette fin de la mort, cette facilité du martyre, cette joie d'affranchissement. Là, le plus méprisé, le plus humble, a pourtant ce bonheur d'orgueil de briser, de fouler aux pieds l'ordre et la loi, d'être sa loi à lui. L'exemple était contagieux. Quelques chrétiens périrent, mais des masses immenses qui n'imitaient pas leur martyr n'imitèrent que trop bien leur refus de porter les fardeaux de la vie civile. La milice surtout, si dure par elle-même, elle l'était bien plus par les voyages immenses des légions de la Seine à l'Euphrate. Bien plus par leurs travaux de maçons, d'ouvriers, bien plus par la misère d'une solde très faible dans l'enchérissement de toute chose. Tacite a peint cela avec génie. Que faisait le soldat? la guerre à l'Empire même. Il créait un César qui augmentait la solde bientôt insuffisante. Enfin, découragé, il laissait là le Rhin et le Danube se garder s'il pouvait. Il jetait son épée, disait « Je suis chrétien ». Donc le barbare passait. Troupeaux désordonnés dont Marius, Tibère firent de si grands carnages. Masse confuse de femmes, enfants, de bœufs, de chariots, rien n'était plus facile que de les arrêter. Rien de plus sage aussi. Quoi qu'ait pu dire Tacite dans son roman de la Germania, quoi qu'ait pu ajouter nos extravagantes ottomanes, il n'apportait guère à l'Empire que désordre et ruine. En accepter l'élite pour la disséminer et la romaniser, c'est ce qu'on pouvait faire. Mais fraterniser follement, leur ouvrir les barrières, les admettre en tribu, c'était accepter le chaos. Les grands enfants blondasses étaient à 100 lieues de pouvoir comprendre une telle société. Ils cassaient tout, faisaient rage un moment. Puis ces hommes très mous, sous leur forte apparence, fondaient à la chaleur du sud, aux vices et aux excès. De cette neige restait de la boue, où l'Empire s'embourbait, tombait plus bas encore, bien loin de se régénérer. Le peu qui restait d'Italiens, de Grecs, la Celtique et l'Espagne, les races dures, indestructibles, de Ligurie, de Dalmatie, conservaient à l'Empire, même dans sa dépopulation, des ressources bien plus réelles. Le génie manquait-il au monde qui produisait encore Tacite et Juvénal, qui produisait un Marc Aurèle, les maîtres de la jurisprudence, les Gaius, les Ulpiens, le grand Papinien, son oracle? On pouvait soutenir que si le monde antique baissait par un côté depuis Aristote, Hippocrate, il s'élevait par l'autre, par le droit et l'intelligence du juste. Cette croyance banale que l'Empire mourrait sans remède vient de ce qu'on assimile légèrement la vie des nations à la vie de l'individu. Rien de plus différent. Elles ont dans leur sein des renouvellements qu'il n'a pas. Mais pour revivre, il faut croire à la vie. Pour vaincre, croire à la victoire. Que faire avec des gens qui sont atteints à l'âme? Que vous reste-t-il, moi? Disait Médée. S'il reste moi, c'est tout, mais s'il ne reste pas, s'il est ébranlé et malade. Croire qu'on meurt et le dire, c'est déjà mourir en effet. Les grandes colonies de Trajan, si fortes et si durables, une existe de 6 millions d'hommes, Roumanie et Transylvanie, semblait consolider l'Empire. Mais ni le grand chef militaire, ni l'empereur des jurisconsultes ne suffisaient dans l'état des esprits. L'énervation orientale gagnait toujours, et ses dieux féminins, la maladie fiévreuse de Syrie, de Phrygie. Les Césars furent forcés d'imiter leurs rivaux, les rois des Parthes qui étaient rois soleil, comme les anciens phras de l'Égypte, les nabis de Babel et les mitras d'Iran. Les Grecs de Bactriane avaient porté ce titre et l'immortel mitra du royaume de Ponte, l'indomptable roi Mithridate. La chose parut folle d'abord. Néron n'y songeait et c'est ce qui sans doute le fit cruel pour les chrétiens. Leur antéchrist, l'enfant né Lagabal, le petit pontife de Syrie, l'essaya, se perdit. Tous deux, immondes femmelettes, grotesques Adonis, furent prodigieusement ridicules. Cependant, leur folie fut plus tard imitée par le sage et brave Aurélien dans les nécessités suprêmes. il gagna 20 batailles et se fit soleil incarné. Tout dieu mourant se déclarait soleil. Sérapis, Attis, Adonis, Bacchus, tout finissait par là. L'Empire, ce vieux malade, regardait vers l'astre du jour pour avoir un peu de chaleur. De Mitra, du Sol Invictus, on crut un moment faire le dieu des armées, le culte des légions. Mitra avait tiré un grand renom du dernier ennemi de Rome, Mithridate, et de l'empire mystérieux que Pompée écrasa, l'association des pirates qui, un moment, furent maîtres de toute la Méditerranée. Association mithriaque dont on n'eut pas tout le secret. Ce que l'on voit fort bien, c'est que, chez ces désespérés, Mitra fut l'énergie. Énergie solaire et humaine. Leur initiation à la milice de Mitra se faisait dans les Andres. Des Andres ténébreux, le dieu naissait et éclatait, jeune et fort, terrassant, égorgeant un taureau. Très ingénieusement, les pirates, pour représentation ordinaire de Mitra, prirent une belle sculpture grecque d'une vierge, c'est la victoire, qui tue l'énorme bête. Seulement, il la coiffe du bonnet phrygien, en font un jeune Attis, mais non mutilé celui-ci, au contraire d'un bras sûr, qui d'un coup abat le taureau. Soldat, lion, coureur du soleil, pour courir la terre, le fer à la main, c'étaient les degrés de l'initiation. On offrait aux novices l'épée et la couronne, et il ne prenait que l'épée, disant « Mitra est ma couronne, je serai un roi d'énergie ». Cela eut un succès très grand dans les légions. On croyait que le sang du taureau, cette rouge, fumante cataracte tombant sur l'énervé, lui versait sa force et même sa vaillance amoureuse. Mitra fut quelque temps la vraie religion de l'Empire. Lui-même Constantin hésitait d'y toucher. L'effet n'en dura pas. Mitra atteint lui-même, loin de guérir les autres, languit et défaillit. Comme tant d'autres dieux, lui soleil, lui victoire, il devint un dieu pénitent. Pour bien savoir le néant de l'époque, en mesurer la chute, il suffit de connaître la pâle littérature d'alors. Un souffle de mourant, un dernier radotage de faibles et vagues paroles. Profonde pauvreté et définitive impuissance. Tout est flasque, mou, vieux, et qui pisait, enflé à vide, gonflé d'air et de vent, bizarrement exagérateur. Rien n'en a aucune langue de comparable à ces lettres étranges où saint Jérôme, conseillant le célibat religieux à une vierge chrétienne, compte ses tentations, la furie de ses vieux désirs. En revanche, rien de froid, de pâle, comme les récits des martyrs, si faibles en ce brûlant sujet. Mais la perle est le manuel universel et populaire que tous citent et admirent pendant 2 ou 3 siècles. Irénée, Clément, Athanase, Jérôme, Eusèbe, etc. L'insipide pasteur d'Hermas. Libretto des petits mystères où l'on admettait les novices. Il resta à la mode tant que les femmes furent prêtres, probablement parce qu'il présente beaucoup de rôles de femmes pour les vieilles et les jeunes, où toutes pouvaient à plaisir montrer leurs grâces apostoliques. Triste production trop semblable aux œufs pâles que le mâle n'a pas fécondés. Et cependant, qui le croirait? Ce n'est pas vraiment de la femme. Sa mollesse et sa grâce, ses charmants défauts, sont absents. Voilà ce que c'est que de croire, qu'on peut se passer de l'amour, de l'enfant, de la maternité, cette puissante initiation. L'enfant ne paraît guère dans les monuments juifs, sauf l'orgueil de succession, et il ne paraît point du tout aux monuments chrétiens. Jésus semble un enfant et ne l'est pas. Il prêche. La mère n'ose y toucher. Pour elle, il est stérile, ni allaité, ni élevé. Qu'arrive-t-il ? La femme est triste et sèche, d'aspect ingrat et pauvre. L'impuissance de l'homme, sans doute, est lamentable. Mais la femme impuissante, atrophiée, fruit sec, c'est pique-mort, désolation. Voyez aussi l'air sot, la figure idiote des gens du Nord qui vont à cette école. Ostrogoth, Visigoth, un nom proverbial pour la décrépite ineptie. Les voilà sur les bancs de la vieille Hermas, disant « Moussa, la muse ». Derrière un autre arrive un cruel magistère et son fouet de fer, Attila. Notez que les rois goths ont encore figure d'homme auprès des fils de Dagobert qui vont venir, de même leur chronique auprès de Frédéguer. Et celui-ci vaut mieux que les moines carlovingiens, bêtes muettes, qui peuvent à grand-peine bégayer, bêler quelques mots. Dans le terrible voyage de Cain aux mers polaires, rien ne fait plus impression que de voir des chiens de Terre-Neuve ou Esquimaux très sages et de tête excellente, qui, par l'atroce rigueur du froid, sont devenus fous. J'ai même tristesse et même effroi, s'il se peut dire, à voir dans les légendes le lion, le chien, les oiseaux, ces êtres jadis sages, de les voir imbéciles. Les bêtes sont devenues des sottes. Tel animal qui dans l'Inde fut l'ami de Rama, tel qui eut dans la Perse son ferouère ailé, son génie, chez saint Antoine et saint Macaire est un pénitent ridicule. Le lion devient frère laid de l'ermite, porte son bagage. L'hyène écoute ses sermons et promet de ne plus voler. Légendes illusoires. Dans la pensée chrétienne, l'animal est suspect, la bête semble un masque. Les velus, nom sinistre que les Juifs donnent aux animaux, sont des diables muets, et toute la nature devient démoniaque. L'arbre, en ses feuilles sombres, est plein de terreurs et de pièges. N'est-il pas le coupable où le serpent s'enroule pour capter, tromper Ève et pour perdre le genre humain ? Si ce n'est le serpent, c'est l'oiseau, c'est le rossignol, démon de mélodie, qui de là chante encore pour troubler, égarer les cœurs. Par ces arbres enchantés, la magie du désert s'opérait, la nuit y venait, les eaux, de là les fleurs, les fruits et toutes les tentations de l'homme. Ah bas, arbre funeste, que la plaine s'étende, âpre, nue, désolée, la terre fit trop l'amour, qu'elle fasse aujourd'hui pénitence. Ainsi commença ici ce phénomène étrange, la haine de la création et la persécution, l'exil de Dieu le Père. Le Verbe seul régna. Jusqu'en l'an 1200, pas un autel, pas une église au Père, pas même de symbole qui le rappelle au moins. Il ne tint pas à l'homme, chose énorme, que Dieu ne fût mis hors la nature, hors de la grande église dont il est la vie, l'âme, qui naît incessamment de lui. Le Père, mot cher, sacré, l'amour de l'ancien monde. La famille y avait son ferme appui, son genius auguste, le foyer sa solidité. Tout flotte au Moyen-Âge. L'époux est-il l'époux ? Le père est-il le père ? je ne sais. La famille, idéale et mystique, calquée sur la légende, a son autorité ailleurs. Nul chef de la famille, nul père au sens ancien, ce nom qui voulait dire créateur et générateur, un tiers l'a maintenant. Le père lui dit « Mon père !» Qu'est-il dans sa propre maison ? Écartons l'idée qui pourtant revient partout au Moyen-Âge, écartons l'adultère. Supposons la famille respectée, pure et sainte. La chose est toujours triste. C'est le mépris de l'homme, c'est l'époux ravalé. Pour lui, l'épouse est vierge, car elle a l'âme ailleurs, et donnant tout, ne donne rien. Autre est son idéal. Si vous la voyez mère, c'est qu'elle a conçu de l'esprit. Le fils est à elle, à lui, non. Voilà la maison à l'image de la société extérieure. La mère et le fils sont un peuple, l'homme un peuple inférieur. Il est le cerf, la bête. L'écrasement du monde se reproduit ici, justement au refuge où l'infortuné eût voulu refaire son pauvre cœur. Quel est cet enfant qui grandit, fleuri d'une grâce précoce, sous l'œil complaisant de la mère? L'homme en est fier lui-même, il le préfère aux autres. Et pourtant, comme il en diffère, on le sent trop bien par moments, fluctuation amère, incurable tristesse. L'homme ne saura pas s'il doit ou ne doit pas l'aimer. Il l'aime en attendant, mais nulle sécurité. Nulle joie vraie et complète, il a perdu le rire et ne l'aura plus ici-bas. Dans le primitif évangile, livre cité des premiers pères, la touchante figure de Joseph est déjà posée. Sa compatissante bonté, mais son chagrin profond, ses larmes. Beaucoup plus explicite est l'évangile du charpentier. Livre fort et naïf, qu'on semble avoir détruit tant qu'on a pu. On ne l'a retrouvé que dans une version arabe. Mais il n'est point arabe. Il n'en a pas les sottes fleurs. Il est grec ou hébreu. Avec une force prophétique, ce pauvre petit livre a peint en Joseph, en Jésus, toute la situation des 1000 ans qui suivirent, la cruelle plaie de la famille. Joseph, dès l'origine, a été admirable pour la pauvre orpheline, fort durement rejetée du temple, qui la donne compromise et pauvre. Peu engagé et simple fiancé, il lui ouvre les bras, la sauve. Il n'en est pas moins triste et reste tel toute sa vie. À sa mort, c'est bien pis. Son âme, affaiblie de chagrin, se trouble, désespère. Il pleure sa destinée, il maudit sa naissance, croit que sa mère l'a fait dans un jour de mauvais désir, selon le mot du psaume. Dit enfin, malheur à mon corps et malheur à mon âme, je la sens déjà loin de Dieu. Cri amer, il n'a eu ni la terre ni le ciel. Il a vécu près d'elle, avec elle et sans elle. Et au bout de cette vie sombre, il voit les lions d'enfer. Il craint Jésus lui-même pour les pensées mauvaises que lui, Joseph, eut de Marie. Il a tort. Jésus a un cœur. Il pleure lui-même abondamment, le calme, le rassure, lui ôte les terreurs de la mort. Rien ne mourra de toi, n'aie peur. Ton corps même restera, ne se dissoudra pas, demeurera intact jusqu'au grand banquet de 1000 ans. Ainsi, de si bonne heure, on peignit à merveille ce qui allait venir, se répéter partout. Ce qu'on ne prévit pas, c'est que, dans cet enfer, les damnés du mariage aigriraient leur douleur en se moquant les uns des autres. La cruelle poésie des Noëls les suit dans tout le Moyen-Âge. Il faut en rire, il faut les chanter, être gai. Il n'est pas permis d'être triste. Et c'est le plus triste qui chante pour n'être un objet de risée. Cela le suit partout, quelque part qu'il se tourne, au chant de veillée, au mystère qu'on joue aux portes des églises, au mystère figuré de pierre, même légende partout et toujours. Au Noël, le roman succède, douceâtre délayage qui mondanisa la légende. Une littérature tout entière étend et remue le poison, le versant dans la plaie, ne donnant rien au cœur que la blessure aiguë du doute, au plus sensible point, l'amour. L'amour au moins subsiste de l'enfant à la mère. Dans ce culte, l'objet aimé semble l'enfant. On le croirait, à tort. Dès les Juifs, la famille est dure. N'épargne la verge à ton fils, bat-le assidûment. Ne souris jamais à ta fille et garde son corps pur. Choquant précepte étrange, d'autant mieux il ira au casuiste. Il s'en empare en font de honteux commentaires. Tel défend à la mère de regarder son fils. Qu'est-il donc cet enfant ? La chair, le péché incarné. Plus elle est belle et riche, cette chair, et de lys et de rose, plus elle représente l'amour, le moment de l'amour où nature l'a donné par là. Et là, sur ses genoux, dans ses bras, sur son sein, que tient-elle sinon le péché ? Aussi, qu'elle est triste et craintive. Osera-t-elle aimer ? Oui et non. Si elle aimait trop, quelle limite ? Ô cruelle doctrine, qui, brisant le foyer, rendant l'amour amer, glace jusqu'à l'amour maternel. Donc, nul amour qu'en Dieu. Dieu aima tout le monde. Il peut exiger tout quand il a donné tout, son fils. Énorme sacrifice dont la bonne nouvelle semblait l'infini du pardon, montrait le péché mort, la justice possible, l'enfer vaincu, éteint. Mais comment donc subsiste encore la vieille idée barbare, la prédestination qui fait des réprouvés de naissance créés pour l'enfer? Idée désespérante qui plane, obscure, sur l'Ancien Testament, qui, dans les Évangiles, durement se détache d'un fond doux en éclairs sanglants, qui, forte dans saint Paul, se fait homme, un cruel docteur, et, dans Augustin, un bourreau. Que l'amour est terrible! La porte des enfers, chez Dante, porte ce mot « C'est l'amour qui me fit ». L'amour fait la fureur, la férocité d'Augustin. Âme africaine, en son ardeur pour Dieu, il blâme, il damne les pères grecs qui avaient quelques doutes sur l'enfer éternel, osaient croire que le bienheureux regardant le damné pourrait avoir compassion. Et qui le damné ? Tout le monde. On voit par Augustin qu'en cette doctrine de l'amour, l'aimé est introuvable, l'élu est rare, presque impossible. Grand Dieu, quoi de plus dur aurais-tu donc la loi ? Rendez-moi la justice. Près d'elle, j'aurais eu au moins des circonstances atténuantes. Mais nul avec la grâce. Mon sort est fait d'avance. Oh, délivrez-moi de l'amour. Si vous avez voyagé quelquefois dans les montagnes, vous aurez peut-être vu ce qu'une fois je rencontrai. Parmi un entassement confus de roches amoncelées, au milieu d'un monde varié d'arbres et de verdure, se dressait un pic immense. Ce solitaire, noir et chauve, était trop visiblement le fils des profondes entrailles du globe. Nulle verdure ne l'égayait. Nulle saison ne le changeait. L'oiseau s'y posait à peine, comme si, en touchant la masse échappée du feu central, il eût craint de brûler ses ailes. Ce sombre témoin des tortures du monde intérieur semblait y rêver encore, sans faire la moindre attention à ceux qui l'entouraient, sans se laisser jamais distraire de sa mélancolie sauvage. Quelles furent donc les révolutions souterraines de la terre? Quelles incalculables forces se combattirent dans son sein pour que cette masse, soulevant les monts, perçant les rocs, fendant les bancs de marbre, jaillît jusqu'à la surface? Quelles convulsions, quelles tortures arrachèrent du fond du globe ce prodigieux soupir? Je m'assis, et de mes yeux obscurcis, des larmes lentes, pénibles, commencèrent à s'exprimer une à une. La nature m'avait trop rappelé l'histoire. Ce chaos de monts entassés m'opprimait du même poids qui, pendant tout le Moyen-Âge, pesa sur le cœur de l'homme, et dans ce pic désolé que du fond de ses entrailles la terre lançait contre le ciel, je retrouvais le désespoir et le cri du genre humain. Que la justice ait porté 1000 ans sur le cœur cette montagne du dogme, qu'elle ait, dans cet écrasement, compté les heures, les jours, les années, les longues années, c'est là, pour celui qui sait, une source d'éternelles larmes. Ce qui m'a percé le cœur, c'est la longue résignation, la douceur, la patience, c'est l'effort que l'humanité fit pour aimer ce monde de haine et de malédiction sous lequel on l'accablait. Quand l'homme qui s'était démis de la liberté, défait de la justice comme d'un meuble inutile, pour se confier aveuglément aux mains de la grâce, la vie se concentrait sur un point imperceptible, les privilégiés, les élus, et tout le reste perdu sur la terre et sous la terre, perdu pour l'éternité, vous croiriez qu'il s'éleva de partout un hurlement de blasphème? Non, il n'y eut qu'un gémissement et ces touchantes paroles. S'il vous plaît que je sois damné, que votre volonté soit faite, ô Seigneur. Et ils s'enveloppèrent, paisibles, soumis, résignés, du linceul de damnation. Et pourtant, quelle tentation constante de désespoir et de doute! Que le servage ici-bas, avec toutes ses misères, fut le commencement, l'avant-goût de la damnation éternelle. D'abord une vie de douleur, puis, pour consolation, l'enfer, damné d'avance. Pourquoi alors ces comédies du jugement qu'on joue au parvis des églises? N'y a-t-il pas barbarie à tenir dans l'incertitude, toujours suspendu sur l'abîme, celui qui, avant de naître, est adjugé à l'abîme, lui est dû, lui appartient? Avant de naître, l'enfant, l'innocent, créé exprès pour l'enfer. Mais que dis-je, l'innocent? C'est là l'horreur du système, il n'y a plus d'innocence. Je ne sais point, mais j'affirme hardiment, sans hésiter, là fut l'insoluble nœud où s'arrêta l'âme humaine, où branla la patience. L'enfant damné, plaie profonde, effroyable du cœur maternel, celui qui la sonderait y trouverait beaucoup plus que les affres de la mort. C'est de là, croyez-le bien, que partit le premier soupir. De protestation, nullement, et pourtant, à l'insu même du timide cœur de femme qui le laissa échapper, il y avait un « mais » terrible dans cet humble, dans ce bas, dans ce douloureux soupir. Si bas, mais si déchirant. L'homme qui l'entendit la nuit ne dormit plus cette nuit, ni bien d'autres. Et le matin, avant le jour, il allait sur son sillon, et alors il trouvait là beaucoup de choses changées. Il trouvait la vallée et la plaine de labour plus basses, beaucoup plus basses, profondes comme un sépulcre, et plus hautes, plus sombres, plus lourdes les deux tours à l'horizon, sombre le clocher de l'église, sombre le donjon féodal, et il commençait aussi à comprendre la voix des deux cloches. L'église sonnait toujours, le donjon sonnait jamais, mais en même temps, une voix forte parla plus haut dans son cœur. Cette voix disait « Un jour », et c'était la voix de Dieu. « Un jour reviendra la justice. Laisse-la ces vaines cloches, qu'elles jasent avec le vent. Ne t'alarme pas de ton doute, ce doute c'est déjà la foi. Crois, espère, le droit ajourné aura son avènement. Il viendra siéger, juger dans le dogme et dans le monde. Et ce jour du jugement s'appellera la révolution. »